France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Marie Kondra. Je suis ravi aujourd'hui de vous parler de mon coup de cœur sur Le Hors-Champ, un livre que j'ai adoré, moi, qui a eu du mal à me tomber des mains, qui vient présenter le cinéma sous un rapport très particulier, donc l'image en tant que notion philosophique, dans ce qu'elle montre et surtout ce qu'elle ne montre pas, pour faire quelque chose de plus large sur Le Hors-Champ en littérature.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un book club théorique aujourd'hui est l'extension d'un lieu où comment le hors-champ, notion d'abord toute cinématographique, peut nous permettre de penser un espace en dehors de la logique du capitalisme attentionnel. Un espace littéraire, entre autres, qui échapperait au dictat de la visibilité en permettant de représenter sans forcément tout montrer. Présent dans l'histoire du cinéma depuis le début, le hors-champ apparaît comme concept à la fin des années 60. Marie Kondra s'en sert dans son dernier livre paru aux éditions du Seuil pour penser les bords, les sources invisibles, les ellipses, les silences, le hors-texte, les fantômes. Elle met à jour les tensions contemporaines du regard et de la lecture entre voyeurisme et pudeur, terreur et désir, en commençant par définir avec d'autres le statut d'une image, et puis postulant qu'il existe des images dans la narration, elle se demande ce que peut être un hors-champ en littérature. Marie Kondra est notre invitée, nous sommes ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Marie Kondra.
Bonjour.
Votre livre Le Hors-Champ, extension d'un lieu, apparu aux éditions du Seuil dans la collection La Librairie du 21e siècle. Ici, d'habitude, on commence par un questionnaire lecture pour faire le portrait de nos invités. Il se trouve que votre livre est tissé de lecture, que vous réfléchissez à la lecture, qu'on vous imagine même dans une grande bibliothèque en train de lire. Donc on va directement entrer dans votre livre et c'est une façon d'entrer dans votre bibliothèque. Mais avant la bibliothèque, la salle de cinéma, puisque si vous déplacez cette notion du hors-champ dans le champ littéraire et textuel, vous commencez bien par la poser, cette notion. Ce qu'est le hors-champ et comment est-ce qu'elle est pensée dans les années 60?
Oui, bien sûr, il y a la salle de cinéma, mais il y a aussi quand même toutes mes lectures, des essais sur le cinéma ou des écrivains et écrivaines qui se sont inspirés du cinéma. Et je dois dire que pour moi, je pense qu'il y a plusieurs sources de mon intérêt pour cette notion, mais qui viennent notamment des lectures qui portait sur le cinéma et c'est aussi c'est ce qui explique aussi mon rapport particulier à cet art qui est un rapport je dirais philosophique, c'est-à-dire que pour moi c'est vraiment un mode de pensée et donc c'est quelque part dans les textes sur le cinéma, donc comme vous l'avez dit à partir de la fin des années 60 puis les années 70 surtout comme on dit en Suisse, 70 je traduis que la notion émerge elle émerge d'abord dans des théories très très géométriques je dirais autour de la notion du cadre, donc le hors-champ est pensé comme quelque chose de parfaitement localisable, géométrisable, donc comme un espace très concret finalement, un espace qui peut être filmé ou qui peut être laissé en dehors du cadre.
Matériellement.
Tout à fait, oui. Dans la machinerie du cinéma, si vous voulez. Ensuite, progressivement, il devient plus abstrait. D'abord avec, par exemple, la considération des sons et de la musique. Donc, je pense notamment à Michel Kion, qui a écrit, qui a beaucoup travaillé sur le son au cinéma. Il distingue plusieurs modalité du hors-champ sonore, c'est-à-dire non pas on ne peut pas parler on peut parler de la profondeur du son, mais on ne peut pas vraiment parler du hors-champ sonore. En revanche, donc je précise que il y a différents indices, par exemple des voix dont on ne voit pas la source, ou une musique qu'on entend mais on ne sait pas d'où elle vient. Voilà, donc qui peuvent permettre de là encore de localiser ce hors-champ qui reste déjà un peu encore en concret, mais qui devient aussi plus abstrait. Et puis, il y a aussi toute la pensée du temps au cinéma en général et par rapport au hors-champ en particulier. Je dirais que c'est notamment Gilles Deleuze qui a beaucoup travaillé, qui s'est intéressé au hors-champ dans cette perspective-là. Et c'est ce qui l'a amené aussi à en parler en termes d'un ailleurs absolu. Donc avec Deleuze, le hors-champ devient aussi une notion autonome parce que il renvoie à cet ailleurs qui est dépendant du champ, mais qui en est en quelque sorte libéré aussi. Donc il y a des très belles pages chez Deleuze consacrées au champ, à la fois dans le premier et le second volume du cinéma. Et ça me permet aussi de rappeler et de préciser que les pages consacrées au champ se résument souvent à un article ou voilà,
oui,
quelques paragraphes. Il n'y a pas vraiment, c'est assez paradoxal.
C'est déjà la marge en fait.
Tout à fait, exactement.
Une marge de la théorie qui s'intéresserait à une marge de la production cinématographique, mais ça veut dire aussi, Marie Kondra, que vous avez un regard tout particulier sur cette notion-là. C'est-à-dire que c'est vous en fait qui, dans un premier temps, et en tant que lectrice, en tant que chercheuse universitaire, vous relevez ce qui dans la théorie du cinéma, s'intéresse au hors-champ. En fait, vous glanez ça de manière consciente ou pas ? Au début, je veux dire, avant que de se lancer dans cet essai.
De manière consciente ou pas ?
Ça vous intéresse ? Je veux dire, c'est un projet ? Vous constatez que c'est ça qui vous intéresse dans
La majorité de nos actes sont inconscients. Ce serait ça ma réponse. Et justement, pour moi, le hors-champ, je ne le placerai pas tout à fait du côté de l'inconscient. Mais c'est un autre sujet. En revanche, si vous voulez. Mais en tout cas, ce qui était important pour moi, quand j'ai voulu retracer un peu la conceptualisation de cette notion, ce n'était pas seulement pour combler des lacunes dans ce qui a été déjà écrit avant moi, mais c'était aussi pour le rendre opératoire, pour le rendre intéressant en dehors du cinéma. Et donc, c'est une métaphore qui est très séduisante, au fond, déjà parce qu'elle est liée à la métaphore du chant, mais aussi parce qu'il permet d'indiquer tout un ensemble de phénomènes qui sont liés à la marginalité ou qui sont liés à la question de l'exclusion, etc. Donc c'est vraiment une métaphore qui peut venir remplacer. Je la croise dans un peu partout depuis que je m'intéresse au champ, et je tenais à garder son caractère métaphorique dans ma propre réflexion, mais tout en restant très très précise, justement à proximité de cette définition cinématographique. Parce que, comme je l'ai dit, le hors-champ au cinéma, il est à la fois spatial, il est sonore, il est temporel. Puis on s'aventure aussi avec le hors-champ dans le terrain du récit. En fait, c'est là que le hors-champ est le plus actif, on en reparlera tout à l'heure. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui se joue de manière extrêmement précise dans notre rapport au dehors du cadre, qui peut être métaphorisé lui aussi, et qu'on ne peut saisir qu'avec ces définitions cinématographiques du hors-champ.
Et pourtant, pour faire ça, assez rapidement, vous excédez le seul champ du cinéma. Marie Kondrat, par exemple, vous vous demandez, est-ce que le désir pour le hors-champ, et même le désir pour penser le hors-champ, est une traduction de la pulsion scopique, de pouvoir voir au-delà du champ, au-delà du cadre, au-delà de ce qui est rendu visible. Et puis rapidement, vous en venez à vous dire que rien ne progressera dans votre démonstration si vous ne vous arrêtez pas à ce que c'est qu'une image, presque détachée même détachée du champ cinématographique. Oui, vous vous demandez ce que c'est qu'une image, c'est un temps important de votre démonstration. Et vous le faites parfois avec certains penseurs et certaines penseuses, et puis un peu contre d'autres. En l'occurrence, vous pensez plutôt contre Jean Baudrillard. On l'écoute ici dans une archive de 1990.
Il y a une dimension peut-être de l'image aujourd'hui qui est celle plus générale aussi de l'indifférence à elle-même. Enfin, il y a une telle profusion d'images que ces images ne se regardent plus. Enfin, alors, et je me demande moi aussi si elles sont encore faites pour être regardées au sens traditionnel, c'est-à-dire un regard, quoi, avec quand même une distance, une sorte de jouissance de l'image comme telle, un temps de l'image, enfin un temps de déroulement et la possibilité de quand même d'un arrêt sur image et tout. Alors, s'il n'y a plus de retour sur le réel possible, il n'y a plus de retour de l'image sur elle-même non plus. Hein. Elle n'est plus le reflet de quelque chose, ça, bon, on le sait quand même depuis longtemps. Alors on est un peu livré quand même à une sorte de je ne sais pas, de kaléidoscope comme ça, où on a du mal à retrouver la puissance de l'imaginaire. Moi, ce qui me semble un peu avoir disparu, je dirais paradoxalement, hein, il y a tellement d'images que ce qui a pris fin là-dedans, c'est l'illusion. C'est plus encore que le réel, peut-être, c'est l'illusion. C'est-à-dire la puissance de l'illusion, qui est une puissance de séduction, la puissance de séduction propre à l'image, la puissance de mettre en jeu, en scène, le réel à un autre niveau, enfin, de mettre en... Alors que l'image ne fait plus illusion. Elle ne cherche pas à vous convaincre du réel, elle ne cherche plus à exprimer ou à décrire quelque chose, mais elle ne fait plus non plus illusion. En fait, on rêve de moins en moins sur l'image, elles sont de moins en moins suggestives, elles ont de moins en moins d'écho ou de chambre de résonance, puisque elles se neutralisent un peu les unes les autres, quoi. Malheureusement, c'est pas un destin, là, c'est plutôt une sorte de fatalité ordinaire, hein, de banalité, quoi, dans ce sens.
Pour continuer de progresser dans votre démonstration et dans votre réflexion autour de la notion du hors-champ, Marie Conrad, je le dis, il y a tout un moment dans votre livre où vous vous demandez ce que c'est qu'une image. Ici, il y a une archive donc de 1990 qui est issue de l'émission Microfilm diffusée sur France Culture. C'était il y a 35 ans. Je pense que c'est intéressant de dire que c'est une archive qui date d'il y a 35 ans. Baudrillard, il parle du destin à ce moment-là ou du moment où en sont les images. En quoi est-ce que c'est presque un point de départ pour vous que de critiquer cette pensée-là?
Alors Baudrillard, il fait partie de ces penseurs qui entendent l'image dans un sens très particulier, qui est extrêmement lié aux visibilités, c'est-à-dire à la partie visible de l'image. Donc c'est une définition possible, mais c'est une définition de l'image qui a aussi suscité beaucoup de méfiance depuis Platon et jusqu'à nos jours. Et donc Baudrillard, il fait aussi de ces penseurs qui utilisent l'image pour critiquer la société
de surconsommation,
de consommation, etc. Et donc, c'est ce que j'analyse d'ailleurs dans le livre, c'est cette utilisation finalement non pas de l'image en tant que telle, en tant que concept, en tant que support, mais en tant que terme pour mener sa critique de la société. Et donc, ce qui est intéressant, donc il y a Baudrillard, mais il y a aussi Debord ou même Agamben, donc certaines de leurs idées convergent vers ce qu'on vient d'entendre chez Baudrillard. Et justement, le hors-champ, il apparaît au moment de cette nouvelle étape de l'extrême méfiance vis-à-vis de l'image avec l'essor des industries visuelles. Quelque part, c'est une apparition paradoxale, mais je l'ai trouvé chez certains et certaines philosophes, par exemple comme Marie-Josée Monzin, qui un peu plus tard développe une toute autre pensée de l'image. Qui est celle de la relation, qui essaye justement de dissocier l'image du visible. Et ce qui est intéressant chez elle, c'est aussi son corpus de référence, qui est la patristique. Et donc, elle essaye de convoquer les textes des Pères de l'Église pour proposer cette autre définition de l'image qui est dissociée du visible, en fait, en rappelant aussi l'héritage chrétien, c'est-à-dire l'icône dans la pensée de l'image comme quelque chose qui renvoie à une invisibilité lointaine, mais par l'intermédiaire d'une présence visible, c'est-à-dire d'une représentation visuelle. Alors, ce qui était crucial pour moi avec le hors-champ, c'était justement j'étais très influencée et très inspirée par la pensée de Marie-Josée Monzin, mais avec le hors-champ, je voulais aller encore un peu plus loin en distinguant l'invisible et le hors-champ. C'est-à-dire que par rapport à ce que je venais de dire sur les définitions cinématographiques, il ne s'agit pas pour moi avec le hors-champ de proposer une sorte de nouvelle pensée de l'invisible. Il est justement, il n'est pas, il reste de l'ordre du visible. Le hors-champ, c'est quelque chose qui est sensible, qui peut être perçu ou non, qui peut être cadré, ramené dans le champ, mais ce n'est pas ce lointain auquel renvoie le visible dans ses définitions chrétiennes ou même philosophiques.
Oui,
c'est vraiment crucial.
Non-fétichisation de l'invisible.
Tout à fait.
Il est plutôt question avec vous, Marie Conrad, de penser l'image comme un endroit d'échange, de circulation, de relation avec d'autres espaces que le seul espace visible. Mais il n'y a rien qui est figé, ni ce qui est visible, ni ce qui est invisible. Oui.
Et justement, vous avez parlé du désir tout à l'heure, et je pense que c'est un bon exemple, parce qu'on pourrait penser aussi à certains genres, au cinéma d'horreur, qui cultivent leur champ. Mais il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Marie-Claire Ropart, qui a écrit des pages sur la voix off et l'érotisation du bord du cadre. Elle ne parle pas vraiment du hors-champ, mais c'est une pensée qui m'a aussi menée vers ce terrain, en me disant que le hors-champ, il s'adresse directement aux désirs, mais ce sont des désirs qui ne demandent pas à être comblés directement. Et par rapport à la pulsion scopique, je pense que c'est... Et justement, le ne pas tout montrer pour laisser ce désir, en fait, se développer, en quelque sorte.
D'une certaine manière, il n'y a pas d'équivalence pour vous entre le hors-champ et le tout invisible. C'est ça aussi ce qu'il faudrait bien distinguer. Alors, dans ce moment-là où vous pensez au statut de l'image, vous revenez aussi sur les différentes controverses théoriques qui ont trait au statut de l'image. On ne peut pas toutes les déplier aujourd'hui. Vous évoquez notamment Georges Lieberman, vous parlez de le cas... limite qui est la représentation de Auschwitz et des camps de concentration. Vous vous demandez comment penser l'image avec ces pensées-là qui se sont disputées sur l'existence des images aujourd'hui. Est-ce que vous voulez essayer de livrer quelques éléments et de nous dire comment est-ce que ça nourrit votre réflexion sur la question du hors-champ?
Oui, justement, le hors-champ m'a permis aussi d'aborder ces questions qui sont liées à l'irreprésentable, en fait, et de les préciser, en quelque sorte. C'est là que l'intérêt de la notion devient
éthique, politique.
Exactement, c'est-à-dire que, au fond, ce qu'on peut dire avec le hors-champ, c'est que la question, ce n'est pas tant de montrer ou de ne pas montrer, mais c'est de dire deux choses, et qui ne sont pas forcément compatibles, enfin, c'est que tout n'est pas dans le visible, d'une part, et d'autre part, qui reste du non-montré et qui peut-être doit rester
non-montré.
Tel.
Le Book Club, Marie Richeux.
Un book club théorique aujourd'hui avec un essai paru aux éditions du Seuil dans la collection La Librairie du 21e siècle. Lequel essai s'appelle Le hors-champ, extension d'un lieu. Marie Kondrat, vous êtes universitaire, chercheuse. On a passé un premier temps de cette émission à d'abord définir brièvement la notion du hors-champ dans le cinéma, notion qui arrive dans le champ théorique dans les années 60. On y a passé un bref, parce que vous étiez l'invité de Sylvain Bourmeau dans la suite, dans les idées sur France Culture, où vous avez développé ça plus avant. Donc on renvoie nos auditrices et auditeurs. Puis ensuite, tout ce temps que vous passez dans votre livre à vous interroger sur le le statut de l'image, statut contemporain de l'image, et voir comment est-ce que ça peut nourrir votre réflexion autour du hors-champ. Et puis ensuite, puisqu'on est ici au Book Club de France Culture, vous vous proposez, armé de tout ça, de déplacer la notion du hors-champ dans le champ littéraire, dans le champ textuel. Vous y allez avec quelles hypothèses, avant d'entrer dans une démonstration plus méthodique ? Avec quelle, je sais pas, ouais, quelle intuition ?
Alors, je pense que l'intuition du départ, elle venait des expériences qui sont à la fois des expériences esthétiques, mais aussi des expériences ordinaires, c'est-à-dire le fait de prendre conscience que quelque chose manque. En l'occurrence, des bibliothèques, des livres détruits, des livres qui ne nous sont pas parvenus ou des livres qui ne sont pas traduits. Donc, c'est ce genre de... d'intuition, en fait, et pour moi, le hors-champ, comme terme, désignait cette expérience vécue du manque de manière très précise et très précieuse aussi. Et donc, ce n'est qu'après, donc après cette étape des livres absents, que j'ai cherché du hors-champ dans les textes, dans les récits, comme je l'ai dit avant, dans les théories cinématographiques du hors-champ, la question de la temporalité, donc où on laisse le temps de penser au hors-champ, c'est quelque chose qui est vraiment crucial pour sa constitution dans une œuvre. Et donc, j'ai cherché s'il pouvait y avoir des formes narratives, essentiellement des formes textuelles du hors-champ, et c'était vraiment une découverte, hein. Parfois on découvre des choses sans les chercher et c'est magnifique. C'est que j'ai remarqué qu'il y avait des théoriciens et théoriciennes de la littérature qui, à peu près dans les mêmes années que les théoriciennes du hors-champ, ont cherché à conceptualiser, à forger certaines notions qui pourraient être pensées comme des équivalents littéraires du hors-champ, mais puisque les deux termes, enfin les plusieurs termes, pardon, existent, ce n'était pas ça ma question, mais la question c'était surtout la démarche dans laquelle ils essayaient de forger ces termes. Alors dans le livre, je développe quelques notions que je considère emblématiques, comme la Lerchtele chez Iser, donc le blanc ou la lacune, la lacune justement, ou l'ellipse, et voilà, donc cela m'a permis de parler d'une sorte de concomitance ou de la contemporanéité. On a parlé tout à l'heure de l'image, mais il y avait aussi une forme de contemporanéité de cet intérêt pour le manque, comment dire, la disparition.
Que vous datez à quelle époque ?
Toujours à partir des années 60, 70 aussi, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, comment prendre en charge l'absence après la guerre, en fait.
Et ça, vous le faites en effet en vous intéressant à différentes branches théoriques. Marie Kondrat, par exemple, on parlait tout à l'heure de la première émergence de la notion de hors-champ dans le cinéma en considérant la matérialité de ce hors-champ. Et finalement, pour la littérature, vous faites pareil. Qu'est-ce que ça veut dire considérer un hors-champ en même temps qu'on redécouvre ou qu'on reconsidère la matérialité du texte ?
Alors, ce qui m'a fascinée dans cette notion, c'est qu'elle renvoie d'une part à quelque chose de fondamental du point de vue anthropologique et presque en historique, si je peux dire ce terme, qui est la question du besoin du récit, la question de la finitude humaine, la question de pourquoi représenter, pourquoi l'art, etc. Et donc c'est une pensée du récit justement qui vient répondre à ces angoisses ou à ces interrogations, non pas par l'accumulation ou par le remplissage, mais en créant du vide, hein. Et puis, donc ça c'est une partie, disons, possible de la réflexion sur le hors-champ. Et puis l'autre, c'est quelque chose qui est extrêmement lié à notre contexte médiatique contemporain, qui est celui des multimédias, donc et c'est ça que le hors-champ aussi permet de redécouvrir, ces nouveaux supports dans lesquels sont publiés des textes, dans lesquels ils sont parfois exposés, donc ça aussi, donc l'expérience de la lecture est aussi une expérience visuelle, et je pense que le hors-champ intervient aussi sur ce terrain-là, et non seulement dans la structure narrative des œuvres, mais aussi du point de vue sensoriel, en fait. Il y a quelqu'un comme Anne-Catherine Hiles qui en parle très bien. Elle parle de la simultanéité de la lecture qui fait qu'on doit parfois se déplacer corporellement ou avec son regard dans certaines œuvres. Voilà, donc il y a vraiment ces deux composantes de la notion, une composante, je dirais, anthropologique qui nous renvoie à des questions fondamentales sur le besoin de la narration, de la fiction même, des figures, et puis l'autre qui est liée à notre contexte contemporain qui est marqué par les visualités.
Et il y a un autre champ que vous explorez, vous et les autres, c'est l'idée de la théorie de la réception. Se poser la question du hors-champ, c'est se poser la question de qui lit, qui reçoit le texte. En quoi est-ce que ça nourrit votre réflexion, cette théorie de la réception ?
Alors, les théories de la réception, c'est donc une sorte de réinvestissement ou valorisation du sujet de la lecture comme sujet actif dans son rapport au texte. Et c'est en fait, on retrouve les mêmes motifs dans la pensée de l'image chez Mondin, mais chez certains autres penseurs comme David Friedberg. Donc, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant de valoriser l'être humain dans son rapport à l'art, mais c'est de déplacer l'attention depuis le contenu en fait des œuvres vers cet espace qui est un peu à la marge de l'œuvre, métaphoriquement parlant, et qui est donc toujours dans le rapport du tissage et du détissage. Je ne sais pas si c'est très clair.
En tout cas, on va aller vers un exemple. Et c'est un auteur que vous citez souvent, Marie Kondrat, dans votre texte. C'est Italo Calvino. Et ici, nous entendons un extrait et puis on va le commenter.
Le roman que tu es en train de lire voudrait te présenter un monde matériel, dense, minutieux. Immergé dans la lecture, tu déplaces machinalement le coupe-papier dans l'épaisseur du volume. Pour ce qui concerne la lecture, tu n'as pas encore atteint la fin du premier chapitre. Mais pour ce qui est de la coupe, tu es bien plus avancé. Et voilà que, au moment où ton attention est au plus haut, tu tournes une page à la moitié d'une phrase décisive et tu te retrouves face à deux pages blanches. Tu es abasourdi. Tu contemples ce blanc cruel comme une blessure, espérant presque qu'un trouble de ta vision t'ait porté à projeter une tache de lumière sur le livre, de laquelle peu à peu tu ne tarderas pas à effleurer à nouveau le rectangle zébré de caractère d'encre. Et non, vraiment, c'est une candeur intacte qui règne sur les deux pages qui se font face. Tu tournes encore une page et tu trouves deux feuillets imprimés comme il se doit. Tu continues à feuilleter le livre. Deux pages blanches alternent avec deux pages imprimées. Blanches, imprimées, blanches, imprimées, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Les feuilles ont été imprimées d'un seul côté. Puis elles ont été pliées et reliées comme si elles étaient complètes. Et voilà comment ce roman, si intensément traversé de sensations, se présente tout à coup à toi comme déchiré d'abîmes sans fond. Comme si l'ambition de restituer la plénitude vitale finissait par révéler le vide qui la sous-tend. Tu essaies de sauter les lacunes, de reprendre l'histoire en t'accrochant au bout de prose qui vient après, effrangé lui aussi comme la marge des feuilles séparées par le coupe-papier. Tu ne t'y retrouves plus. Les personnages ont changé, les milieux. Tu ne comprends plus de quoi il est question. Tu tombes sur des noms de personnes dont tu ne sais pas qui ils sont. Tu es saisi par le doute qu'il s'agit d'un autre livre, tandis que le début que tu as lu pourrait appartenir à un autre livre encore, Dieu sait lequel. Ludmila dit « Je voudrais que les choses que je lis ne soient pas données tout d'un bloc, solides, comme si on pouvait les toucher. » J'aimerais mieux qu'on sente autour d'elle la présence de quelque chose d'autre, dont on ignore encore la nature, le signe de je ne sais quoi.
»
un extrait de « Si une nuit d'hiver, un voyageur » d'Italo Calvino dans la traduction de Martin Rueff aux éditions Gallimard. Lu pour avancer dans notre réflexion, Marie Kondrat, ici par Cyril Marchand. Qu'est-ce qui nous permet de penser cet Italo Calvino?
Alors effectivement, merci.
En tout cas, il vous fait sourire.
Oui, j'adore ce livre et merci beaucoup pour cet extrait en fait qui dit tout du Horchamp. Calvino, il n'emploie pas ce terme, mais il fait partie de la génération cinéphile en fait des écrivains. Il était très inspiré par le cinéma à la fois dans ses romans, mais aussi dans ses essais en fait. C'est vraiment un prisme de sa pensée de la littérature et du visible et de l'image.
Et du vide et de l'absence avec lequel ça deal.
Tout à fait. Alors, dans l'extrait que vous venez de lire, on saisit très bien justement ce rapport qui est très matériel au livre, avec le geste de la coupe, avec le découpage des pages du livre qui est en fait pas celui auquel s'attendait le lecteur. Le blanc aussi, donc le blanc des pages blanches, qui n'est pas tout à fait le blanc de Mallarmé. Ce que je trouve intéressant dans ce texte, qui a été souvent pensé en termes de méta-roman ou d'une sorte d'œuvre romanesque totale.
Peut-être on peut dire le principe de ce livre-là.
Oui, bien sûr. Alors, c'est un roman qui est composé d'une série des incipits, en fait, qui s'interrompent.
Ce sont tous des débuts, voilà.
Qui s'interrompent. Et donc ce principe de l'interruption, il a été commenté par Calvino lui-même comme quelque chose justement qui empêche à la fois, mais qui encourage aussi la lecture. Et donc quand je disais que ce texte a été défini comme métaroman, on pourrait penser que c'est tout le contraire du Horchamp, puisqu'il explore des différents styles, il essaye de, en quelque sorte de faire des contours des mondes romanesques, certes par les débuts, mais quand même il y a une sorte d'ambition de totalité qu'on pourrait y lire, mais finalement cette totalité elle n'empêche aucunement toute cette réflexion sur la coupe, sur l'interruption, sur le vide, et aussi ce jeu qui, on parlait tout à l'heure de la réception, des théories de la réception, de la figure
du lecteur
ou de la lectrice, et bien chez Calvino, parce qu'il y a une lectrice femme avec un L majuscule, le lecteur hypothétique des théories de la réception, il est aussi, elle est aussi empirique. Et d'ailleurs, j'ai choisi cet exemple pour en clôture du livre aussi parce que le livre commence avec une note. Alors, ce n'est pas la toute première note où j'explique les principes d'écriture que je choisis, c'est-à-dire le féminin majoritaire. Et donc, j'ai voulu reprendre ce texte de Calvino pour, voilà, en quelque sorte, créer une résonance avec mes propres choix, où en fait je...
Peut-être vous pouvez le détailler un petit peu, ce choix-là qui est un choix, voilà, important, politique, dans l'édition des textes contemporains. Marie Kondrat, quand vous dites que vous utilisez le féminin majoritaire, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait des théoriciens ou des, je sais pas, des lecteurs au pluriel, ben tout ce qui est au pluriel est au féminin. Donc vous parlez de théoricienne, vous parlez de lectrice, vous parlez d'autrice. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et en quoi ça vient faire vibrer tout ce que vous pensez du côté du hors-champ. Qui est hors-champ?
Oui, alors je rebondis tout de suite sur votre dernière remarque. On peut dire que c'est une écriture depuis une sorte de hors-champ qui est celui du langage et de la langue. Et pour moi, il aurait été inconcevable d'écrire ce livre avec le genre neutre, ou comme on dit neutre, ou banal. En fait, j'aurais eu l'impression de me trahir, en quelque sorte, par rapport à mes propres expériences de lectrice ou de spectatrice. Ce que j'ai aussi cherché à proposer avec ce choix, c'est une sorte de contrepoids à justement tout le vocabulaire que je croise en tant qu'enseignante, en tant que chercheuse en littérature, qui est au masculin. Donc on parle du narrateur, du lecteur, etc. Donc pour moi, il était urgent de chercher une sorte de contre-proposition qui m'appartienne pleinement, qui ne soit pas d'ailleurs forcément excluante, mais qui soit quand même dans un geste actif, dans un geste qui vient justement, quand je disais c'est le hors-champ du langage et de la langue, eh bien qui vient investir ces zones qui sont là, qu'on connaît, mais qui ne sont pas convoquées dans ce qu'elles ont, dans ce qu'elles peuvent avoir d'autonome. Contrairement à l'écriture avec les points médians, par exemple, que j'utilise parfois dans des mails, mais qui c'est pas tout à fait dans le hors-champ. Et ce geste d'investissement des zones qui sont un peu à l'écart, il y a une figure importante qui est une rencontre tardive, mais qui est très, qui m'a beaucoup porté ces dernières années, à la fois sur le plan intellectuel. Et humain, c'est Adriana Cavarero, qui est une philosophe italienne et qui, en fait, elle part, elle aussi, non pas du langage à proprement parler, mais de certaines figures qui sont délaissées parfois, pas parfois, mais tout le temps, dans le champ culturel. Elle, en l'occurrence, elle travaille sur la littérature antique, sur les mythes, et donc elle essaye de sauver quelque part, et d'arracher, c'est le terme qu'elle emploie, ou de voler ces figures au texte. Donc il ne s'agit pas de nier tout ce qu'on a hérité, qu'on n'a pas choisi, et c'est mon cas aussi. Mais de voir ce qui reste de ce qu'on peut sauver, en fait.
Mais ce qu'on peut sauver, par exemple, Marie Kondrat, quand vous utilisez cette idée de banlieue du texte, qui me semble être une image assez intéressante, assez performante, ça veut dire, concrètement, nous avons hérité d'une certaine histoire littéraire avec des figures majoritaires, visibles, éventuellement même totalitaires, et pourquoi pas totalitairement ou quasi-totalitairement masculines, ou avec un regard masculin, parce qu'il y a aussi ça. Enfin, vous utilisez ce fameux male gaze et l'idée d'un regard masculin. Et donc, aller voir dans le hors-champ de la littérature, c'est aussi faire monter des figures à la visibilité, des figures qui étaient dans la banlieue du texte, et les faire quoi, les rendre plus visibles.
Eh bien non, justement.
Les laisser dans la banlieue du texte.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le mouvement...
Sans céder éthique, au dictat de la visibilité.
Exactement, le mouvement éthique et politique que peut appeler le hors-champ, ce n'est pas de sacraliser le visible. Je l'ai déjà dit par rapport à l'invisible, ce n'est pas l'idée, mais c'est justement de préserver ces zones et de les penser dans leur autonomie possible, en fait. Donc, et c'est la raison de mon choix constant et que j'essaye de tenir tout au long du livre, d'employer ce féminin majoritaire, c'est-à-dire de ne pas céder à des formes plus de compromis.
Vous parlez de différents modes de narration qui seraient des narrations qui répondraient à l'idée du hors-champ, devenu, on l'a entendu dans votre voix, Marie Kondrat, un hors-champ, un hors-champ éthique, quoi, qui permet de penser la littérature, notamment avec des narrations qui ne sont pas tout d'un bloc, des narrations qui vibrent d'une certaine façon. Vous allez voir dans différents endroits, par exemple, l'une des personnes que vous citez, c'est la prix Nobel de littérature, Svetlana Alexievitch, on va l'entendre et vous allez nous dire pourquoi est-ce qu'elle répond et pourquoi pas à une idée d'un hors-champ littéraire.
La parole, le langage oral, ça n'est pas encore le texte abouti du livre, mais en même temps, je dois respecter le document, je n'ai pas le droit de trahir l'original, donc c'est vraiment un travail de précision, un travail de joaillier, si vous
voulez.
C'est un ensemble de choses, c'est un tout. En fait. D'abord, bien sûr, je recueille des matériaux pour mon travail. Ensuite, il faut une idée qui ne serait pas banale et autour de laquelle on pourrait, une sorte de vision du monde, en fait, autour de laquelle on pourrait fédérer tout ça. Parce que sinon, ça ne serait que du journalisme. Imaginez-vous un bâtisseur d'une église. Il ne peut pas dire, c'est moi qui ai bâti cette église, même si les plans, les murs, ça a germé dans son esprit à lui.
Эти формы, это все. Я думаю, что...
Moi, je me vois comme un conducteur. Je suis le conducteur de quelque chose qui devait rester. Il était impossible que ces personnes s'en aillent dans le passé sans laisser des traces. Alors mon œuvre m'appartient autant qu'elle leur appartient.
La voix de Svetlana Alexievitch au micro d'Augustin Trapenard sur France Inter dans l'émission Boomerang. Peut-être dire un mot d'abord de l'œuvre de Svetlana Alexievitch et qu'est-ce qui vous intéresse dans sa narration, les formes de narration qu'elle emploie, avant de voir en quoi est-ce que ça pourrait être relevé du hors-champ.
Oui, c'est une œuvre documentaire qui ne s'inspire pas directement du genre audiovisuel documentaire, mais qui lui emprunte quand même certains principes, comme celui de l'enregistrement ou du montage. C'est-à-dire concrètement, Alexievitch, elle est allée chercher ses interlocuteurs et interlocutrices dans certains livres, comme « La guerre n'a pas un visage de femme ». Par exemple, les enregistrer et ensuite en proposer des assemblages et des compositions. Et c'est là que la figure de la narratrice-autrice intervient et elle est extrêmement importante. Vous avez parlé tout à l'heure de la banlieue du texte. Eh bien, on peut dire que Alexievitch, elle fait ce choix tout à fait assumé et qui est à la fois, alors je ne dis pas le mot visible, mais qui est perceptible, qui est concevable, qu'on peut entendre quand on lit ces textes, de rester en retrait. Il y a quelques signes de sa présence, des notes, des sortes de didascalies, pour nous signaler qu'elle est là, que c'est une figure qui accueille la parole de ses interlocutrices, mais qui ne se met pas en avant. Et c'est-à-dire qu'elle est... On peut l'avoir aussi comme une sorte de réponse à toutes les figures du narrateur omniscient ou omnivoyant. Et c'est un choix éthique dans son cas, puisqu'il s'agit de faire résonner toute la polyphonie de l'histoire, en fait. Et c'est une autre manière d'écrire l'histoire. Et elle le précise dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Si son œuvre, ce n'est pas du journalisme, ayant été d'ailleurs journaliste, c'est parce que elle fait ce travail en fait de composition des voix. Et justement, le terme qu'elle emploie elle-même, ce sont des romans de voix pour qualifier son œuvre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces voix au pluriel, la voix narrative, l'instance narrative, elle est à la fois présente et absente. Et je l'évoque dans le livre parce que c'est un exemple justement littéraire, mais aussi quelque part proche des dispositifs visuels, comme je viens de l'évoquer, qui donne à penser en fait cette figure narrative qui est à la fois présente et qui est absente.
Et cette idée pour l'œuvre de Svetlana Alexievitch, l'idée d'une narratrice en retrait, un peu effacée, moins totalitaire ou omnisciente que d'autres figures de narration, se rajoute au fait qu'elle va entendre des voix qui elles-mêmes sont hors champ, qui elles-mêmes ne sont pas à un endroit majoritaire, qui elles-mêmes sont silencieuses.
Oui.
Ok. On écoute la voix de Mathis, auditeur du Book Club. Il vous a lu avec intérêt et vous pose une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Marie Kondra. Je suis ravi aujourd'hui de vous parler de mon coup de cœur sur Le Hors-Champ, un livre que j'ai adoré. J'ai particulièrement apprécié le côté très foisonnant des auteurs qui vient en fait comme une somme de toutes ces pensées-là, tout en partant de ces auteurs-là pour faire quelque chose de plus large, notamment sur la littérature, qui est fascinant de bout en bout. Une question que je me suis posée pendant la lecture du livre, si sur les réseaux sociaux, des plateformes qui sont quotidiennes dans la vie d'un libraire, notamment pour les prescriptions auprès des jeunes lecteurs, si ces principes du hors-champ étaient applicables aux plateformes numériques. Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous, Mathis. Et merci de faire ce travail de recommandation de texte sur les réseaux sociaux. Alors, on aurait déplacé cette notion du hors-champ, du champ cinématographique, au champ de la théorie de l'image, au champ textuel et littéraire, Marie Kondrat, pour aller sur le champ des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ce serait un hors-champ possible, avec tout, chargé de toutes les considérations éthiques et politiques et esthétiques que vous avez développées, dans le champ du réseau social ?
Alors merci pour cette question qui
ça rend encore plus contemporain votre réflexion.
Bien sûr, sachant que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de visible, du visuel et d'ailleurs du visible qui est narratif, qui se narrativise avec des vidéos. Donc je pense que c'est un exemple très intéressant. Alors si je comprends bien la question, c'est comment susciter l'intérêt et les désirs des lecteurs sur des réseaux sociaux en essayant de...
Moi, je pense que c'est encore plus large de la part de Matisse. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un hors-champ possible au sens politique du terme sur un réseau comme Instagram où l'image est reine, le récit de soi est roi, le face caméra est roi? Est-ce que c'est possible et dans quel genre de grammaire?
Sans doute en donnant des indices. Alors, le hors-champ, il ne sert pas à occulter ou cacher, mais il peut être, amené par certains indices ou par des questions ou par des paradoxes. Je pense que il y a une manière de figurer le hors-champ à travers les outils des réseaux sociaux que je ne connais pas très, très bien. Donc je ne saurais pas vous donner des conseils précis, mais je pense que il y aurait plein de moyens. En fait, ce qui est intéressant avec cette question des réseaux sociaux, c'est que leur champ, il est il ne peut être aboli. Je donne peut-être un autre exemple qui n'est pas de celui des réseaux sociaux, mais qui est du cinéma 4D. En allant voir un film l'été dernier, alors j'ai profité d'un déplacement en Corée du Sud pour aller voir un film en 4D en me disant est-ce qu'il y aura du hors-champ, et la question elle était très mal posée parce qu'évidemment il peut y avoir du hors-champ même dans des espaces qu'on pense un peu saturés par plein de canaux, par plein de biais, mais en fait la question qui se pose c'est aussi celle de l'identification en fait par rapport à ce qui est montré. Ce n'est pas tant de savoir est-ce qu'on peut ne pas montrer, c'est plutôt de quel rapport on crée entre ce qui est dit et ce qui n'est pas dit par rapport à son public, par rapport à ses lecteurs et lectrices, en l'occurrence.
Ça rejoint peut-être une autre dimension de la notion du hors-champ en littérature qui a à voir avec les fantômes ou le domaine du possible. Quand vous parlez de l'œuvre de Julien Gracq, vous dites qu'il y a quelque chose du hors-champ textuel ou littéraire qui se tient ou qui serait composé des livres qui ne sont pas là, des livres qui seraient imaginables, des livres qui seraient possibles ou invisibles. Est-ce que vous pouvez développer cette notion-là, Marie Kondrat?
Alors, chez Julien Gracq, effectivement, cette idée de fantôme, elle est très liée à la textualité du livre. Moi, j'ai essayé d'étendre cette idée avec le hors-champ vers la question des canons, vers la question des bibliothèques absentes. Il y a d'autres collègues intellectuels qui ont parlé des textes possibles. Justement des livres qui sont actualisables ou qui ont été laissés de côté par des auteurs et autrices elles-mêmes. Quelqu'un que j'aime beaucoup et qui a justement mené cette réflexion à la fois très près du texte mais aussi avec beaucoup de détachement, c'est Judith Schlanger quand elle parle de la mémoire des œuvres ou des livres disparus, et elle se réfère aussi bien à la littérature qu'au cinéma. Donc il y a toute cette pensée de l'absence qui hante notre rapport à la lecture, aux œuvres et qui sont consacrées en fait. Et pour moi, c'est une manière aussi de, avec le hors-champ, de reconnaître que ce rapport à la lecture, il est toujours noué de ce qu'on a lu, mais aussi de ce qu'on n'a pas lu.
Et ça revient peut-être au début de l'entretien où je vous demandais quelle était votre attention ou avec quelles intuitions vous étiez intéressé à la notion du hors-champ en littérature, Marie Kondrat, et vous disiez c'était d'avoir le sentiment un peu à la fois un peu diffus mais tout à fait concret et réel qu'il manquait des textes, qu'il manquait des bibliothèques, peut-être qu'il manquait aussi des personnages ou que des personnages étaient secondaires, qu'il y avait des chemins plus de l'ordre de la digression que de la ligne droite de la vie, à la fin de l'écriture du hors-champ comme extension d'un lieu. Est-ce que vous avez tenu ce pari, non pas de combler le manque, parce qu'on a bien compris que c'était pas ça le projet, mais d'étendre quelque chose, ce serait étendre quoi ?
Justement, vous venez d'employer le terme de digression. Je trouve que c'est un procédé rhétorique et une sorte de modalité de pensée qui est tout à fait intéressante, parce que ce qui définit la digression, c'est son autodésignation, c'est-à-dire comme je viens de le faire à l'instant, c'est de dire que, enfin, c'est en essayant de dire que le rapport au texte, à la littérature, il est constitué de ce qui est là, de ce qui est dans le sujet et dans ce qui est dans le hors-sujet. Or, ce procédé-là de digression, il a quand même une force qui est très perturbatrice, puisqu'elle fait déplacer des centres, elle fait déplacer ce qui est présent, donc c'est ça qui est intéressant. Donc le livre il se termine sur cette idée-là, que s'il fallait prouver qu'il peut y avoir du hors-champ partout, s'il fallait le prouver, ce qui n'est pas mon propos, mais s'il le fallait, eh bien la digression, elle le figure très bien. Elle le figure bien à la fois parce qu'elle se désigne elle-même. Il y a toujours un début et une fin de la digression. Il y a une parenthèse, il y a un tiret, il y a un message. Et puis elle se détruit progressivement en entrant dans le sujet, en entrant sur le devant de la scène. Plus on reste dans la digression, moins elle est digression.
Le book club continue.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à cette heure-ci, dans le Book Club, on fait un agenda. On vous propose chaque jour ou presque de vous donner des rendez-vous avec des événements, des festivals, parfois des résidences en lien avec le livre, la lecture et l'écriture. Vous pouvez nous envoyer des informations via l'adresse mail suivante, lebookclub@radiofrance.com. On se fera le relais à l'antenne. Aujourd'hui, on voulait vous parler d'un festival autour de la traduction. Ce festival s'appelle « D'un pays à l'autre ». Il a lieu du 19 au 23 novembre 2025. Il est proposé par la Contre-Allée et revient pour une nouvelle édition dans la métropole lilloise, mais aussi à Paris, mais encore à Bruxelles. Cette année, le festival continue de se positionner au cœur de l'entre-langue, à la recherche des sons, des signes et des phrases qui relèveront la singularité d'une culture et de ce qui peut être à même de les relier à une autre dans le souffle. Je lis leur texte, hein, d'une voix ou à la lecture de signes imprimés. Le festival accueillera notamment la chercheuse Myriam Suchet qui lancera l'édition avec une conférence inaugurale. Toutes les informations sont sur le site du festival D'un pays à l'autre et sur la page du book club franceculture.fr. Et le book club Marie Kondrat se termine tous les jours par un grand jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales. On cherche non pas le hors-champ, ou en tout cas dans le texte ou dans le cinéma, mais on cherche de la musique dans les livres. Et on propose à nos auditeurs et auditrices de jouer avec nous à ce jeu. C'est Josie qui nous propose aujourd'hui un extrait d'un texte qui s'appelle « Les clés du couloir », un texte de Fanny Saint-Aunoy. « Un jour, elle est entrée dans ma chambre en ne faisant aucun bruit, comme souvent. Je ne l'ai pas entendue ni sentie parce que j'étais repliée sur moi-même pour ne pas me faire repérer par la caméra de ma chambre. Et je chantais. Enfin, je murmurais une chanson étouffée par mes mains autour de la bouche. Je fredonnais une chanson d'amour, comme on marmonne une prière tout bas. Je me répétais les mots de Ferré, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare, d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Quand je me suis retournée, parce que j'ai eu la surprise d'entendre un souffle, je l'ai trouvé derrière moi, les bras ballants, la respiration affolée, le regard perdu et les joues d'une pâleur mortuaire avec au milieu une pointe de feu rouge sang. J'ai su d'instinct qu'elle était sous le choc d'une découverte qui la dépassait complètement. Elle est si jeune. Elle ne connaît que ce nouvel univers de fer blanc, de hauts murs et de silence. Elle était bouleversée et interdite. C'était la première fois, semble-t-il, qu'elle ressentait une émotion de cette nature.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur quand ça va plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare. D'un serment maquillé s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit.
Et on se quitte avec cette reprise de Léo Ferré par Alain Bachoun que vous avez peut-être reconnu. Merci beaucoup Marie Kondrat d'avoir été avec nous pour évoquer votre livre Le Hors-Champ, extension d'un lieu paru aux éditions du Seuil dans la collection La Librairie du 21e siècle. Et puis nous avons évoqué cette chercheuse italienne qui vous a beaucoup inspiré, qui s'appelle Adriana Cavarero. Et vous nous confiez que c'est pour bientôt la traduction de son texte Malgré Platon au son aujourd'hui. C'était Grégory Wallon à la réalisation, c'était Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, particulièrement aujourd'hui à Cyril Marchand et Noé Margas. Ils, elles, mettent à penser et préparer l'émission. Vous pouvez retrouver tous les détails de celle-ci sur franceculture.fr à la page du Book Club et continuer à converser avec nous via la page Instagram du Book Club, saturée de visuels et animée par Alexandre Alaibegovic.